Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, magnifique journée qui nous attend et bienvenue dans vos animaux, très chers auditeurs de Sud Radio. Alors voici le programme. Si on s'intéressait aux yeux de nos animaux, œil rouge, œil qui pleure, jusqu'à des pathologies beaucoup plus graves comme la cataracte ou encore le glaucome, on n'y pense pas toujours, mais le soin des yeux est une source de bien-être et de confort. Le docteur Laurent Boina sera mon invité dans quelques instants. Ce spécialiste en ophtalmologie vétérinaire répondra à toutes vos questions. Enfin, côté faune sauvage, une nouvelle fois, le déterrage des blaireaux fait débat. En allant chasser cet animal possiblement porteur de la tuberculose, ne prend-on pas un risque épidémiologique alors qu'on est à peine sorti de la pandémie liée au coronavirus? C'est en tout cas l'avis de certains spécialistes de la faune sauvage et des défenseurs des blaireaux. Et puis quelques idées de sorties nature avec ce beau week-end ensoleillé qui nous attend et la semaine qui va suivre qui sera tout aussi ensoleillée. Nous vous emmènerons dans deux fermes pédagogiques, l'une située à Rambouillet en région parisienne, l'autre dans le Calvados. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Lucille Montier. Nous sommes en direct sur Sud Radio 0826 300 300. Vous le savez, on vous attend au standard d'ici quelques instants.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin, dans vos animaux et vous, nous allons parler des yeux de nos animaux. Plus de 14 millions de chats en France, près de 7 millions de chiens. Mais combien d'entre eux voient de temps en temps un spécialiste en ophtalmologie vétérinaire? Pas beaucoup, certainement. Et pourtant, la bonne santé de leurs yeux est indissociable de leur bonne santé tout court. 0826 300 300 si vous souhaitez poser vos questions à mon invité. Bonjour Laurent Boina.
Bonjour Natacha.
Laurent, merci beaucoup d'être avec nous. Laurent, vous êtes vétérinaire spécialiste en ophtalmologie. Vous allez nous éclairer, et le jeu de mots est un peu facile, je vous le concède, mais il est approprié, sur tout ce qu'il faut surveiller sur les yeux de nos chiens et de nos chats. D'abord, quels sont les signes qui doivent nous inquiéter ou en tout cas susciter notre vigilance?
Écoutez, en ophtalmologie, on a de la chance parce que c'est des signes qui sont très visibles de l'extérieur. C'est-à-dire que dès que vous remarquez un changement au niveau des yeux, c'est-à-dire par exemple des sécrétions anormales, un peu visqueuses ou bien purulentes, de couleur jaune ou verte, ou bien même juste l'œil qui pleure, l'œil qui se ferme par exemple, peut être un signe de douleur, ou bien un changement d'aspect, l'œil qui est rouge. Souvent les propriétaires remarquent que l'œil est rouge, donc ça c'est un signe d'appel. Voilà, donc tout changement d'aspect de l'œil. Et puis après, il y a tout ce qui est modification du comportement ou bien des troubles visuels qui sont notés par les propriétaires.
Est-ce que c'est facile à repérer cogner, d'ailleurs, Laurent? Laurent, est-ce que
oui,
les troubles
l'animal...
visuels sont...
Les troubles visuels sont bien notés par les propriétaires. On le remarque assez vite parce que les animaux se cognent, ils sont gênés, ils deviennent un petit peu plus peureux. Ils peuvent être gênés dans les escaliers lorsqu'il y a un petit peu moins de lumière. Donc ce sont des signes qui sont assez facilement notables.
Avant de rentrer dans le détail des différentes pathologies plus ou moins graves qui peuvent concerner les yeux de nos chiens et de nos chats, d'abord, comment fait-on pour les entretenir au quotidien? Est-ce qu'il y a des gestes indispensables à avoir pour faire en sorte que tout se passe bien?
Écoutez, il faut les soins de base, c'est nettoyer déjà, avec une solution antiseptique. Dans le commerce, en pharmacie, vous pouvez trouver, ou chez le vétérinaire, des solutions nettoyantes, un peu comme chez l'homme, qui sont des solutions antiseptiques qui permettent de nettoyer un petit peu tous les jours. Ça, c'est vraiment la base. Et puis ensuite,
Vous conseillez un nettoyage quotidien?
Oui, une fois par jour. D'accord. Et puis après, ça peut être un petit peu plus si les yeux sont sales.
Mm-hmm.
Voilà,
Donc on nettoie avec cette solution.
Oui, donc on l'envoie un petit peu rangé ou bien sur une compresse.
Est-ce qu'il y a des produits à éviter absolument? Je pense par exemple aux produits pour l'ophtalmologie humaine. Est-ce que ça va bien sur nos animaux?
Alors c'est un tout petit peu moins bien adapté parce que les solutions nettoyantes pour l'homme ne sont pas exactement du même pH que pour l'animal. Il y a une toute petite différence, mais c'est vraiment mineur. Donc à défaut d'une solution vétérinaire, vous pouvez prendre une solution pour l'homme qui se trouve en pharmacie. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'eau du robinet, voilà, parce qu'elle n'est pas complètement antiseptique.
On voit que beaucoup de chiens, quand on les croise dans la rue, par exemple, on voit qu'ils ont toujours un petit coin d'œil un peu sale, avec des croûtes, ça coule un peu, et puis ça fait même un peu parfois des infections. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas de figure ?
Exactement, c'est vrai que c'est très fréquent. Et dans ce cas-là, c'est ce nettoyage hein, dont je parlais. Des larmes artificielles aussi. Ça, les propriétaires d'animaux peuvent très facilement mettre des larmes qu'on trouve dans le commerce ou chez le vétérinaire. C'est le même type de larmes à peu près que chez l'homme. Et ça va permettre d'avoir une lubrification de l'œil, de nettoyer et d'éviter justement toutes ces saletés qui reviennent fréquemment et d'éviter les conjonctivites, de limiter tout ce qui est infectieux, inflammatoire au niveau de l'œil.
On va donner la parole à notre première auditrice de la matinée, Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous et d'écouter vos animaux. Vous aviez justement une question à poser à mon invité Laurent Boina. Je vous écoute. Nous vous écoutons.
Oui, alors j'ai mon chien qui en ce moment, a l'œil qui est assez fluorescent. En fait, elle me regarde et j'ai l'impression que la pupille est très dilatée. Donc, elle a à peu près une dizaine d'années. C'est un petit bulldog.
D'accord.
Et donc, mon mari me dit que c'est probablement la cataracte. Donc, je ne l'ai pas encore emmené chez le vétérinaire. Avec le confinement, on était un petit peu bloqués, bien sûr. Et j'en profite que vous êtes présent pour vous poser la question. Est-ce que c'est dû à l'âge ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?
C'est intéressant parce que c'est très caractéristique hein, lorsque vous avez cet œil un peu fluorescent. Ce que vous voyez, en fait, c'est le fond d'œil, c'est-à-dire que le tapis des animaux est fluorescent, c'est-à-dire le tapis, c'est la rétine, hein, est fluorescente. Et comme la pupille de votre chien doit se dilater, vous voyez beaucoup plus cette fluorescence, d'accord ? Et c'est pas tout à fait normal que la pupille se dilate. Donc, en effet, ça serait bien de consulter un vétérinaire parce que votre chien a peut-être soit un problème de rétine, soit un problème d'iris qui se contracte mal. Et en tout cas, voilà, c'est dû à cette dilatation de la pupille qui fait que vous voyez beaucoup plus la rétine et que vous avez cet aspect fluorescent.
Et il y a un traitement qui est possible à faire ou...
Alors, il peut y avoir un traitement de soutien de la rétine pour limiter un petit peu l'évolution, même s'il n'y a pas de traitement révolutionnaire hein, au niveau de sa rétine. Et puis, associé à cela, c'est vrai que ça peut être aussi un début de cataracte. Donc, ça peut être bien de vérifier qu'il n'y a pas de cataracte, parce que là, pour le coup, si jamais il y a une cataracte, c'est quelque chose qui est opérable.
Ah d'accord, très bien, ouais. Très bien.
Est-ce que ça peut être douloureux, Laurent, ce que décrit Elisabeth sur son chien ?
A priori, non. Non, déjà, elle l'aurait vu. Et puis, ça peut être tout de même, alors la dernière hypothèse, parce que c'est vrai que comme je ne l'ai pas vu, on est au stade des hypothèses, mais ça peut être tout de même aussi un glaucome. Lorsqu'on a un glaucome, c'est-à-dire une tension très augmentée au niveau d'un œil, on a aussi la pupille qui se dilate et on peut avoir cet aspect fluorescent. Et là, s'il y a un glaucome, ça peut être douloureux.
Voilà, ça, c'est pour répondre. Et ça le ferait sur les deux yeux ou sur un seul, un glaucome ?
Ça peut être les deux.
D'accord, parce que là, c'est vraiment les deux.
Ouais. D'accord. Mais bon, là, je pense tout de même que c'est plus un problème de pupille dilatée, tout simplement, soit à cause de l'iris ou un problème de rétine.
D'accord. Merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, Elisabeth, voilà, il ne vous reste plus qu'à aller consulter. Alors, on consulte soit à votre vétérinaire habituel déjà dans un premier temps et puis dans un second temps, si il estime que c'est nécessaire, vous allez voir un spécialiste puisque, on vous le rappelle, il existe des spécialistes hein, en ophtalmologie vétérinaire. Merci beaucoup à vous, Elisabeth. Un très bon week-end ensoleillé.
Merci.
Je vous en prie. On prend un deuxième appel. C'est Monica qui a également composé le 0826-300-300. Bonjour Monica.
Bonjour Natacha.
Bienvenue Monica avec cette jolie voix tout en scie ensoleillée que le temps que nous avons aujourd'hui. On vous écoute
oui,
Monica.
Très ensoleillée. Très ensoleillée dans cette région.
Oui, vous habitez
alors
où
moi, j'habite près d'Albi, dans le Tarn.
D'accord. Vous êtes une chanceuse, mais de toute façon, aujourd'hui, le soleil, c'est pour tout le monde.
Oui,
alors, Monica, on écoute votre question.
Toute la semaine. Oui, alors voilà, moi, j'ai une petite Staffy. Elle a 8 ans et elle a l'œil rouge. Elle a souvent l'œil rouge, un des yeux rouges et larmoyant. Et avec sa patte, elle ramène souvent sa patte sur son œil et elle se frotte avec sa petite patte. Donc, voilà, je pense qu'il y a un petit souci de...
Oui, donc là, ça évoque beaucoup une conjonctivite qui peut être allergique,
oui,
puisqu'elle est un petit peu gênée, oui, là, elle se gratte, donc ça, voilà, ça la démange.
Oui, c'est ça.
Et c'est quand même ce qui est le plus fréquent, voilà. C'est, dès que vous avez un œil rouge, c'est quand même la première cause de rougeur de l'œil. Et avec cette, en plus cette démangeaison, voilà, ça fait vraiment penser à une conjonctivite allergique, ou en tout cas une simple conjonctivite. Est-ce que c'est dans certaines périodes de l'année, est-ce que c'est plus au printemps, comme en ce moment, ou c'est toute l'année?
Non, oui, peut-être au printemps, c'est plus fréquent au printemps, oui.
Ouais, parce que là, on est en ce moment dans une période où c'est un peu plus fréquent avec les pollens.
Voilà, exactement. Dans les jardins, il y a plein.
Voilà,
elle est toujours en train de renifler. Elle renifle tout dans les jardins,
la
terre.
Donc là, c'est peut-être dans les chiens qui sortent comme ça en ce moment, qui sortent plus dans les jardins ou dans les bois, reviennent avec des yeux rouges et ça les démange beaucoup, comme ce que
vous
décrivez.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, donc, Laurent Boisnard, en cas de conjonctivite?
Donc, sur ces conjonctivites-là, vous nettoyez déjà toujours les saletés. Et puis ensuite, vous pouvez instiller. Il faut instiller un collyr. Souvent, on met un collyre antibiotique et anti-inflammatoire. Donc, anti-inflammatoire pour couper cette réaction allergique et antibiotique pour limiter la surinfection bactérienne.
Ah, d'accord.
Voilà, ça fait ça quelques jours et normalement, ça permet en, disons, une dizaine de jours, 10-15 jours, de guérir.
Est-ce que Monica doit se rendre chez son vétérinaire, Laurent, ou est-ce qu'elle peut trouver ses produits en pharmacie?
Madame est obligée de passer par son vétérinaire.
Bon, Monica,
après,
voilà.
Si vous avez l'impression que... Si vous avez l'impression que les symptômes sont peu importants, vous pouvez déjà commencer par une solution, un collyr qui n'est pas sur prescription. Vous pouvez aller chez le pharmacien qui serait un collyr juste antiseptique. Mais il n'y aura pas d'antibiotique ni d'anti-inflammatoire parce que ça, c'est sur ordonnance. Et vous pouvez déjà commencer par un collyr antiseptique dans un premier temps.
Oui, parce que...
Si vous n'avez pas la possibilité d'aller chez le vétérinaire.
J'ai 4 autres chiens et bon, ils ont tous un peu les yeux larmoyants quand même, avec des croûtes. Et souvent, enfin, je fais pas tous les jours, j'avoue.
D'accord. Bah, sur tous, déjà, je vous dis, vous pouvez nettoyer, mettre des larmes artificielles. Ça, vous pouvez, c'est pas sur prescription, donc vous pouvez le prendre chez le vétérinaire, chez le pharmacien. Et puis, commencer par un traitement antiseptique, c'est-à-dire, comme je vous disais, ça, vous êtes libre de le prendre en pharmacie sans prescription. Et si ça passe pas, là, vous allez chez votre vétérinaire qui vous prescrira probablement un collyre antibiotique et anti-inflammatoire.
Bon, au moins, Monica, c'est rassurant. A priori, rien de grave. Je pense que
oui, c'est quelque chose de bénin.
Les conseils du docteur Laurent Boisnard, tout devrait s'arranger. Merci beaucoup pour votre appel, Monica. On vous souhaite un excellent week-end. Laurent, on voit que finalement, ces pathologies, ces petits bobos des yeux sont assez fréquents. Il y a des choses quand même plus graves qui peuvent survenir sur les yeux de nos animaux. Tout à l'heure, vous nous parliez avec notre auditrice précédente, Elisabeth, on a parlé du glaucome. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que le glaucome?
Alors le glaucome, c'est une maladie qu'on trouve aussi chez l'homme. Hein. C'est vraiment la même chose que chez l'homme et qu'on trouve chez le chien, chez le chat. Ça correspond à l'augmentation de la tension à l'intérieur de l'œil. Donc c'est la pression à l'intérieur de l'œil qui augmente du fait d'une mauvaise circulation du liquide dans l'œil. À l'intérieur de l'œil, on a du liquide qui circule et donc le liquide circule moins bien, il est moins bien évacué. Et du coup, on a une pression qui augmente, un peu comme un ballon qui augmente. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose, la pression fait que c'est très douloureux pour l'animal. C'est grave parce que ça écrase la rétine. Du coup, on a une cécité, une baisse de la vision secondaire. Les chiens deviennent, ou les chats deviennent aveugles. Et puis, ça peut même entraîner une perte de l'œil.
Ah oui, donc là, il faut vraiment agir absolument en urgence quand on est en situation de glaucome. Mais alors, les signes d'alerte sont faciles. Les signes d'alerte sont faciles à repérer par le propriétaire?
Oui, souvent on passe pas à côté d'un glaucome hein, parce que c'est douloureux, on a l'œil qui est rouge, qui peut être parfois augmenté de taille, qui change d'aspect, qui devient voilé, un peu comme un œil un peu bleu, donc ça se voit bien. Bon, et puis la baisse de la vision.
Alors ça, c'est une pathologie qu'il faut quand même surveiller de près. On a également évoqué une autre pathologie qui est assez fréquente et que les propriétaires finalement repèrent assez facilement, c'est la cataracte. Là encore, Laurent, expliquez-nous clairement ce que c'est que la cataracte et puis surtout, aujourd'hui, comment on est capable de la prendre en charge?
Alors la cataracte, en effet, c'est fréquent. C'est un peu comme chez l'homme, c'est-à-dire qu'on a le cristallin à l'intérieur de votre œil. Nous, comme les animaux, nous avons une lentille qui est complètement transparente, un peu comme un verre de montre, donc transparente, et la cataracte correspond à l'opacification de cette lentille, qui devient opaque, blanche. C'est pour ça que les propriétaires le voient bien, parce que les yeux deviennent blancs. Je pense que tout le monde voit hein, ces animaux qu'on voit dans la rue avec les yeux très blancs. C'est souvent une cataracte. Et l'opacification de cette lentille fait que les images ne passent plus à l'intérieur de l'œil, ne touchent plus la rétine, et donc le chien devient aveugle.
Et aujourd'hui, on est capable d'intervenir sur la cataracte avec des techniques qui sont assez incroyables.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle la phacoémulsification. Donc c'est un terme un peu compliqué, mais qui correspond à des ultrasons. Ouais, ça fait peur. Bon. Disons que c'est la même technique que chez l'homme, le même matériel. Et c'est à l'aide d'une petite sonde que l'on va aspirer le cristallin. Donc on va le retirer. Du coup, on redonne de la transparence à l'œil et on remplace par un cristallin artificiel. Tout ça est fait sous anesthésie générale.
Et comment ça se passe? Parce que souvent, les deux yeux sont atteints. On fait les deux yeux en même temps, un œil après l'autre.
Alors ça, c'est du cas par cas. Soit on fait un œil après l'autre. Parfois, lorsque vraiment on a les deux yeux qui sont vraiment identiques, il nous arrive d'opérer les deux yeux dans la même séance.
Que vous disent, Laurent Boinat, les propriétaires d'animaux que vous voyez après ces opérations? Est-ce qu'il y a un changement notable dans le bien-être des animaux qui se trouvent opérés de la cataracte?
Oui, ça change complètement leur vie, parce que souvent quand ils arrivent... Alors chez l'homme, on détecte plus tôt, donc il n'y a pas ce changement radical. Mais c'est vrai que chez l'animal, on a tendance à s'en rendre compte un petit peu plus tardivement. Donc du coup, les animaux nous sont amenés à un stade où ils sont assez handicapés. Ils se cognent partout, ils sont peureux. Ils deviennent tristes, hein, des fois déprimés, et oui. C'est vrai que le fait de leur redonner de la vision, quasiment du jour au lendemain, leur change la vie. C'est-à-dire qu'ils ne se cognent plus, ils redeviennent joyeux, ils arrivent à dévaler les escaliers, à retrouver une vie normale. Et ça, c'est un changement qui est vraiment radical en très peu de temps. Donc forcément, les propriétaires sont assez satisfaits.
Dans quel cas peut-on recourir à cette opération de la cataracte? Est-ce qu'il y a quand même des prérequis avant de se lancer dans l'opération?
Oui, il faut toujours faire attention parce qu'il y a des risques. Hein. Le zéro risque n'existe pas. Donc il y a des précautions à prendre, surtout par rapport à l'anesthésie. C'est-à-dire qu'on évite d'opérer les animaux à risque qui ne peuvent pas subir d'anesthésie générale. Mais bon, à partir du moment où l'animal peut subir une anesthésie générale, c'est-à-dire qu'il est assez sain, pas de maladie particulière. Dans ce cas-là, on peut l'envisager. Si la rétine fonctionne, c'est-à-dire si l'œil est assez sain, à ce moment-là, on peut opérer cette cataracte.
Et le post-opératoire est compliqué?
Pas trop, c'est des gouttes, une collerette. C'est souvent ce qu'aiment le moins les propriétaires. Hein. C'est la collerette que l'on met en place pendant une semaine et des gouttes pendant quelques semaines et des comprimés d'antibiotiques pendant une semaine. C'est tout.
Donc plutôt simple. Un mot sur le prix, Laurent, parce que forcément, quand on entend toutes ces techniques de pointe hein, utilisées aujourd'hui en ophtalmologie vétérinaire, ça peut faire un peu peur en termes de tarifs.
Oui, bah c'est vrai que c'est des techniques assez onéreuses, du matériel assez cher. Donc c'est vrai que ça a des répercussions sur le prix de l'intervention. Vous voulez un ordre d'idée à peu près?
Une fourchette.
On est en moyenne aux alentours de 1500 euros.
Par œil ou pour les deux?
Par œil.
Bon. Ouais. On va dire que c'est un investissement, mais c'est un investissement pour le bien-être de son animal. Y a-t-il une autre pathologie auquel il faut vraiment faire attention au cours du vieillissement de l'animal?
Ce qui a suivi, c'est la cataracte, on en a parlé.
Y a les décollements de rétine.
Les problèmes de rétine. Voilà, oui. Un peu comme chez l'homme, on a des dégérescences de rétine, on peut avoir des décollements, et surtout des dégérescences de rétine. Et de plus en plus avec le vieillissement des animaux, un peu comme chez l'homme, hein, on a la DMLA et on a des équivalents. Il n'y a pas de DMLA chez l'animal, mais on peut avoir des équivalents chez l'animal, comme cette dégérescence de rétine qui conduisent là encore à la.
De quelle manière? Comment le propriétaire peut s'en rendre compte?
C'est principalement la baisse de la vision. Donc avec les signes qu'on a abordés tout à l'heure, l'animal qui se cogne, qui est gêné la nuit dans un premier temps, et puis après le jour. Et des modifications de son comportement dans les escaliers ou lorsqu'il doit sortir, courir.
Une dernière question, Laurent Boinat. Y a-t-il beaucoup de vétérinaires en France spécialisés comme vous en ophtalmologie vétérinaire?
Alors, spécialistes, nous devons être à peu près une vingtaine sur toute la France. Donc, il y en a globalement un ou deux vétérinaires spécialistes dans chaque région en France. Voilà, donc il existe un diplôme de spécialiste après qu'on en obtient après ses études de vétérinaire.
Et donc, quand on a besoin de faire appel à vous, c'est le vétérinaire qui suit habituellement l'animal, finalement, qui vous adresse le patient.
Oui, dans la grande majorité des cas, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les vétérinaires qui nous connaissent et qui nous envoient les patients, parce que les propriétaires ne savent pas forcément que ça existe. Mais bon, de plus en plus, ça se sait par Internet ou par d'autres moyens de communication, et donc les gens, parfois, viennent d'eux-mêmes.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Laurent Boina, pour toutes ces explications. Et très chers auditeurs, d'abord, prenez bien soin des yeux de vos animaux. Et si vous souhaitez vous renseigner sur des petites choses qui vous inquiètent, vous pouvez vous rendre sur le site qui a été créé par Laurent Boina, oftavet.com. Voilà, merci beaucoup, Laurent. On marque une courte pause et on se retrouve juste après.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Dans quelques instants, dans vos animaux, on parlera d'un mal-aimé, le blaireau. Les défenseurs des blaireaux continuent de militer en faveur d'une interdiction totale de la chasse de ce petit animal, considérant qu'au-delà de la cruauté de la pratique, le déterrage, c'est comme ça que s'appelle cette chasse, expose aussi à un risque épidémique en raison de la tuberculose. On en parle d'ici quelques minutes, mais tout de suite, notre rendez-vous Question Veto.
Sud Radio, vos animaux. Question Veto.
Et c'est Pierre qui a composé le numéro du standard de Sud Radio. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour madame.
Merci Pierre de nous appeler sur Sud Radio pour poser votre question. Je suis tout oui.
Mais j'ai plutôt un témoignage à vous apporter.
Je vous écoute alors.
Il s'agit d'un chien labrador qui aujourd'hui est âgé de 5 ans et demi. Et ce chien, lorsqu'il a eu 2 ans, il a commencé à boiter d'abord d'une épaule et après d'une deuxième épaule. Les boiteries se sont accentuées de plus en plus au fil du temps. Donc avec mon veto, on a décidé de lui passer un scanner parce qu'il n'y avait plus rien qu'il faisait. Dès qu'il faisait de l'activité un peu intense, il boitait de plus en plus jusqu'au jour où il n'arrivait quasiment plus à marcher. Donc on lui a passé un scanner. Et puis, il a trouvé que le chien était atteint de tendinopathie calcifiante sur les deux épaules. Et donc, le témoignage que je voulais apporter, c'était simplement que nous lui avons fait des PRP, il lui a fait des PRP, des injections de plaquettes riches en plasma. Et je voulais dire aux gens qui nous écoutent éventuellement, si ça leur arrive, que c'est quelque chose qui fonctionne très, très, très bien. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Pierre, pour ce témoignage. C'est vrai qu'il y a des races de chiens qui peuvent être assez sensibles à ce type de douleur et que souvent, on est un peu dépourvu en termes de traitement. On ne sait pas toujours comment faire en sorte de les soulager au-delà de la prise en charge classique des antidouleurs qui, dans certains cas de figure, peuvent être insuffisants. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un chien qui il y a une activité physique importante aujourd'hui encore
Très intense. Le problème, c'est que les PRP, on l'a fait sur 2 ans, à raison de 3 séances par an espacées chacune de 15 jours, 3 semaines. Après les séances de PRP, il faut quand même du repos pendant un mois et demi. Mais quand je dis repos, c'est même s'il y a de l'espace, c'est le chien à l'aise, il ne faut pas qu'il court, quoi, voilà. Il faut que tout se remette comme il faut. Et puis, après l'activité, il faut la reprendre tout doucement, petit à petit. Et puis, au bout de 2 ans, on y est arrivé.
Vous vous êtes particulièrement satisfait de cette prise en charge.
Les PRP, je le répète, les PRP, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est
mieux
que...
C'est un concentré, de plaquettes que l'on injecte à l'animal.
Et pour l'animal, c'est plus agréable que de lui administrer des comprimés, parce que c'est son propre organisme qu'on injecte.
Exactement, et c'est effectivement très efficace dans certaines pathologies. Vous parliez de tendinite, mais c'est aussi vrai pour l'arthrose, c'est aussi vrai pour des entorses. Voilà, ça peut être très utile, et c'est important de témoigner et de faire partager son expérience de propriétaire d'animal de compagnie. Merci infiniment, Pierre. On vous souhaite un excellent week-end.
Merci, vous aussi. Au revoir.
À bientôt, Pierre. Merci. Allez, tout de suite, notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un animal qui est un animal qu'on peut dire mal aimé, le blaireau. Selon l'ONCFS, il y aurait environ 20 000 blaireaux qui sont tués chaque année en France. Pourtant, le blaireau est un animal qui est protégé par la Convention de Berne, mais il continue à être chassé dans certains départements français. Les défenseurs des blaireaux s'opposent à la pratique du déterrage de ce petit animal, jugeant la manière absolument cruelle, mais aussi dangereuse pour la santé publique. Pourquoi ? C'est la question que je pose ce matin à mes trois invités. Et oui, trois invités pour parler du blaireau. J'ai le plaisir de recevoir Catherine Letroquier. Bonjour Catherine.
Bonjour Natacha.
Catherine, vous êtes maire d'un petit village du Loir-et-Cher qui s'appelle Valère et vous vous opposez depuis longtemps à la pratique de la vénerie sous terre. C'est le nom que l'on donne à la chasse du blaireau qui est justement pratiquée dans votre région. J'ai également le plaisir de recevoir Christian Braun. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, vous êtes directeur de la LPO Alsace qui est, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je crois le seul département français où la chasse du blaireau est interdite.
Enfin, le département, c'est le Bas-Rhin. Donc, l'Alsace, il y a deux départements, donc le Bas-Rhin, effectivement. Oui.
Et puis, le docteur Fabrice Cabert. Bonjour Fabrice, vous êtes vétérinaire et spécialiste de la faune sauvage.
Oui, bonjour Natacha, bonjour Madame Letroquier et salut Christian.
Salut.
Voilà, bonjour. Quelle équipe de choc pour parler des blaireaux. Alors, je vais commencer avec vous, Catherine. Expliquez-nous, parce que tout le monde ne sait pas, comment se passe la chasse aux blaireaux.
Alors, pour ce qu'on appelle la vénerie sous terre, en fait, il s'agit de repérer donc les terriers de blaireaux. Donc, les veneurs arrivent avec des pelles, des pioches, grosses pinces métalliques et puis des chiens. Donc, dans un premier temps, on envoie les chiens au fond des terriers pour acculer donc les blaireaux et les empêcher de sortir. Et puis, quand la bête est localisée, terrorisée, les hommes donc se mettent à la verticale au-dessus et puis commencent à piocher. Et ça peut durer
pour
des
aller
heures.
Pour chercher donc, ces blaireaux qui sont enfuis voilà, donc dans leur terrier.
Voilà, ce sont des heures de stress et d'horreur. Quand on arrive au blaireau, il y a actuellement une vidéo de One Voice qui est absolument insupportable et qui montre des images absolument odieuses. Ils sont tués, massacrés à coups de pelles, de pioches, de pinces. On jette les chiens dessus, on donne parfois les bébés vivants aux chiens. Enfin bon, c'est vraiment une pratique absolument odieuse qui n'a aucune raison de perdurer.
Alors vous, dans votre commune, vous vous opposez vraiment à cette chasse au blaireau. Vous essayez même de faire en sorte que cet animal soit le plus préservé possible sur le territoire que vous gérez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière le plus objective possible, Catherine, pourquoi le blaireau est considéré comme un nuisible aujourd'hui par certains ?
Mais il est considéré nuisible. Je dirais que c'est presque un délit de sale gueule. En fait, c'est un animal nocturne. C'est beau, c'est pacifique. Mais bon, c'est un animal nocturne. Bon, comme tout être vivant, il peut aller effectivement grappiller quelques épis de maïs. Mais il faut un an à une famille blaireau pour faire le dégât que fait un sanglier en une nuit. Donc, quand je reçois à la mairie des déclarations de dégâts dues au blaireau, d'ailleurs, je suis allée vérifier par moi-même, il y a des déclarations qu'on peut sérieusement mettre en doute. Un des arguments qui est brandi par les chasseurs, c'est le fait que le blaireau serait donc vecteur de tuberculose bovine. Et c'est là que l'argument ne tient plus. Il faut arrêter de faire de la désinformation, puisque l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui donc a pour mission d'évaluer les risques sanitaires, l'ANSES, est sous la tutelle entre autres du ministère de la Santé et de l'Agriculture, donc a déclaré que de toute façon la vénerie sous terre était parfaitement inutile, à la fois pour la prévention de la maladie dans des zones qui sont indemnes, mais également dans des zones qui sont atteintes. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que en France, il y a une vingtaine de départements où donc on a des clusters de tuberculose bovine donc avérés, où parfois des troupeaux de bovins ont été abattus. Et on a une dizaine aussi de départements qui sont en zone de surveillance, c'est-à-dire des départements où il y a eu des cas de tuberculose bovine depuis moins de 5 ans. Et dans le Loir-et-Cher, on est en zone de surveillance, puisqu'on avait trouvé un sanglier infesté en 2015, quelque part en Sologne. Mais malgré cela, enfin, je précise aussi que la tuberculose bovine, ce ne sont pas les animaux sauvages qui la transmettent. Hein. Elle apparaît dans les élevages bovins. Et elle peut effectivement contaminer la faune.
Alors,
sauvage.
Vous vous dites, Catherine, que cette pratique, le déterrage du blaireau, expose finalement la population humaine à un risque de transmission de la tuberculose. Donc, aujourd'hui, on est en plein hein, dans un risque, une réalité épidémique avec le coronavirus qui a mis vraiment notre pays et le monde entier à feu et à sang. Vous dites, n'en rajoutons pas. Finalement, si on laisse les blaireaux tranquilles, on évitera de s'exposer davantage à un autre risque épidémique qui est celui que représente la tuberculose. C'est bien ça votre position?
Oui, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Agence nationale de la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert absolument à rien. C'est même interdit de faire du déterrage en zone infestée, c'est fortement déconseillé en zone surveillée et c'est parfaitement inutile en zone indemne. Et effectivement, on est dans le même tableau.
C'est paradoxal parce qu'en même temps, c'est autorisé par certains préfets.
C'est ce que je dénonce aujourd'hui. On est dans le même tableau que le Covid-19, à savoir une gestion humaine violente et erronée envers le monde sauvage. Et là, on prend encore des risques de créer de nouveaux déséquilibres, de provoquer de nouvelles zoonoses, et tout cela juste pour faire plaisir à une clientèle cynégétique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, quasiment tous les départements qui sont infestés et les départements qui sont en zone de surveillance sont en train de mettre en place, donc les préfectures mettent en place, les autorisations d'ouverture du déterrage du blaireau. Ce qui veut dire que le préfet, qui est quand même tenu de tenir compte d'un principe de précaution... absolument. Donc en fait, foule au pied ce principe, qui est un principe constitutionnel, par clientélisme pour servir les demandes du monde cynégétique. Et là, je veux dire, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement grave.
Catherine Troquet, on a bien compris votre point de vue. Je crois que vos arguments sont assez clairs en la matière. J'aimerais donner la parole à Fabrice Cabert, qui est vétérinaire spécialiste de la faune sauvage. Que pensez-vous de manière vraiment objective, Fabrice, de ce risque épidémique lié à la tuberculose si on va s'occuper des blaireaux, déterrer ces blaireaux?
Alors tout d'abord, oui, je voulais d'abord faire un aparté. Il y a plusieurs tuberculoses. Donc là, on parle bien de la tuberculose bovine, qui est une zoonose, hein, une maladie transmissible de l'animal à l'homme et vice-versa. Et j'en parle parce que dans l'esprit du grand public, on parle souvent de tuberculose ou de tuberculose humaine. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est le bacille de corps. C'est une tuberculose qui se développe à l'échelle mondiale de plus en plus parce que les gens voyagent un petit peu à l'instar du Covid. Donc la tuberculose humaine, c'est une autre souche bactérienne de tuberculose. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la tuberculose bovine que l'homme peut aussi attraper. Donc cette zoonose, effectivement, elle est connue depuis l'Antiquité. Hein. Ça fait très longtemps qu'on connaît la tuberculose bovine. Et depuis que je dirais que l'homme fait de l'élevage, on va dire, d'animaux domestiques, hein, depuis le néolithique, hein, depuis 10 000 ans, il y a toujours eu des maladies transmises à l'homme. Notamment, on parle beaucoup du Covid en ce moment, mais une des plus anciennes et plus connues, c'est la rougeole, hein, qui vient aussi des bovins. Donc cette tuberculose bovine, encore une fois, comme le disait très justement Madame Le Troquier, elle vient de notre fait, c'est l'élevage de bovins, finalement, qui a pris, si vous voulez, de l'espace vital à la faune sauvage, qui est entré en contact avec la faune sauvage, qui a acculé la faune sauvage et qui a transmis la tuberculose à la faune sauvage.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut vraiment faire un parallèle avec la situation aujourd'hui.
Actuelle, oui. Et la faune sauvage, elle fait quoi? Entre guillemets, elle se venge, elle nous refile la tuberculose, ou elle peut nous la retransmettre. Donc via effectivement
le
blaireau.
Est-ce que selon vous, Fabrice, il y a un risque accru de transmission hein, de cette tuberculose bovine si on va déterrer les blaireaux?
Oui, alors il y a le risque, faut être honnête, hein, le risque est infime, c'est pas une zoonose majeure, hein, c'est pas le SARS-CoV-2, c'est pas la Covid. Hein. Mais effectivement, les animaux sauvages porteurs de tuberculose, si on va les embêter, donc il y en a essentiellement quatre espèces, hein, les cerfs, les sangliers, les chevreuils et le fameux blaireau, effectivement, ils sont porteurs sains, souvent porteurs latents, ils n'ont pas de symptômes. Ils peuvent transmettre la tuberculose et aux chiens et à l'homme. Donc la tuberculose bovine est transmissible aux chiens, à l'homme, et également aux chats. Et d'ailleurs, il y a eu un cas en Angleterre, un chat qui aurait contaminé, enfin qui a contaminé des propriétaires donc de tuberculose bovine, hein, et ce chat aurait été en contact avec un blaireau. Donc la transmission existe, hein, et, la transmission, je veux dire, du blaireau à l'homme existe, soit directement par morsure, hein, du chasseur, soit indirectement par morsure du chien, qui lui-même peut développer la tuberculose et la retransmettre donc à son propriétaire.
Donc, sachant que... Quels sont les moyens dont on dit... Oui.
Non, je disais que la tuberculose, encore une fois, chez le chien et le chat, est une rareté. Hein. Encore une fois, je ne veux pas faire peur aux auditeurs, hein, c'est quand même assez rare. Mais le risque est infime. Alors, on parle effectivement du Covid, de la distanciation physique. Si on veut le risque zéro, ben, c'est la distanciation physique. Donc, on ne touche pas au blaireau. On les laisse tranquilles et on sera au risque zéro. Ça, il n'y a pas d'autre solution.
Alors, quels sont les autres moyens, à part le fait de ne pas aller toucher au blaireau, d'éviter finalement que cette tuberculose bovine ne se répande? Comment on la surveille et comment on essaie justement de l'endiguer au maximum?
Alors, la tuberculose, c'est une maladie à déclaration obligatoire, hein, donc elle est très surveillée en France et en Europe. Hein, et donc, il y a un dispositif qui s'appelle Silvatube, donc qui va contrôler justement la tuberculose en élevage domestique et dans la faune sauvage. Et essayer un peu d'étudier le lien entre les deux. Comment la transmission se fait de la faune sauvage à la faune domestique et vice-versa. Donc c'est très contrôlé en France. Hein. D'ailleurs, la France a un statut indemne actuellement, malgré la centaine de foyers tuberculeux actuels. Hein. Et comme disait Mme Le Troquier, un certain nombre de départements qui sont de niveau 1 à 3. Donc le Loiret-Cher, c'est de niveau 2. Donc niveau 1, pas de tuberculose. Niveau 3, tuberculose à la fois domestique et sauvage. Et le niveau 2, c'est, on va dire, un niveau intermédiaire. Donc, c'est très contrôlé. Hein, tout ça est très, très suivi. Donc, il y a l'ANSES qui suit, il y a beaucoup d'agences, hein, l'OFB. D'ailleurs, on ne parle plus de l'ONCFS hein, depuis le 1er janvier. On appelle ça l'Office français de la biodiversité, pour info. Donc, tout ça, c'est très, très contrôlé en France.
Faut que tu le mettes à la page.
Oui, depuis janvier, ils ont changé de nom. Et le contrôle est fait. Donc, c'est un dispositif, on va dire, de contrôle sanitaire. Après, pour éradiquer la... Oui.
J'aimerais maintenant donner la parole, pardon, excusez-moi Fabrice, j'aimerais donner la parole à Christian Braun qui est directeur de la LPO Alsace. Vous nous disiez que dans le Bas-Rhin, en fait, la chasse au blaireau est interdite. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de blaireaux dans votre département aujourd'hui? Est-ce qu'on a une prolifération du blaireau avec plus de dégâts? Comment ça se passe chez vous?
Alors bon, ce qu'il faut signaler déjà, c'est que le blaireau n'est plus chassable depuis 15 ans, donc on a une belle vision des choses, hein, enfin l'évolution qu'il peut y avoir.
C'est vous, hein, parce que dans d'autres départements français, on le chasse.
Voilà, donc et c'est ce retrait de la liste des espèces chassables, c'est fait d'un commun accord entre toutes les parties prenantes du ce qu'on appelle le Conseil départemental de la chasse faune sauvage. C'est une décision à l'unanimité, hein, où les chasseurs sont majoritaires. Hein. Donc vous voyez, voilà, donc on a fait force de persuasion parce qu'en face on avait des gens qui étaient à l'écoute de la science. Je crois que c'est ça l'essentiel, hein, dans cette affaire-là, comme dans beaucoup d'autres affaires. C'est, à un moment donné, les scientifiques nous avancent un certain nombre de choses. Fabrice Faber vous l'a dit pour la tuberculose, mais ça existe aussi pour l'évolution des populations. Donc, depuis 15 ans, alors, le blaireau n'est plus chassable.
Je suis obligée de vous couper quelques instants, Christian, parce qu'on doit marquer une courte pause publicitaire. D'accord. Mais on se retrouve tout de suite pour justement comprendre comment vous avez géré ça dans votre département.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et ce matin, dans notre séquence à l'état sauvage, nous parlons de la chasse au blaireau. Christian Braun, vous êtes donc directeur de la LPO Alsace. Chez vous, la chasse au blaireau est interdite. Et avant cette petite pause publicitaire, on s'interrogeait sur finalement ce que ça donnait. Est-ce qu'il y a plus de blaireaux dans votre département, dans le Bas-Rhin ?
Donc, en fait, par rapport à... Donc, je disais que le blaireau est plus chassable depuis 15 ans. Et à côté de ça, donc, la LPO a créé ce qu'on appelle un pôle médiation avec le groupe d'études et pour la protection des mammifères d'Alsace. Donc, on s'occupe d'oiseaux et de mammifères. Et donc, on a mis en place un pôle médiation en cas de problème, entre guillemets. Hein. Et donc, aujourd'hui, on sait répondre à tout type de problème. Et aussi, on a mis en place un suivi. Scientifique. Il y a 1600 terriers qui sont répertoriés et la moitié, 50%, sont suivis tous les ans. Et donc, on a une parfaite idée de l'évolution de cette population. Alors, il s'avère que nous, actuellement, d'après ces suivis, on estime que la population est stabilisée. C'est une espèce qui est territoriale, donc elle ne peut pas pulluler. Un territoire de blaireau, sa taille, la taille du territoire, le nombre d'individus, se fait en fonction de la ressource alimentaire. C'est rien d'autre. Donc, quand on supprime une famille, ce territoire est vacant. Donc, il va être remplacé automatiquement tôt ou tard, etc. Mais une fois que tous les territoires sont occupés, qu'il y a une stabilité, ben, globalement, tout ça, ça ne bouge pratiquement plus. Et donc, on a aussi mis en évidence, par exemple, que 50% des femelles en âge de procréer, dans les clans principaux, ne se reproduisent pas tous les ans. Parce qu'en fait, on a une stabilité. Donc, la nature et l'espèce blaireau...
La nature fait la régulation nécessaire.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ça a été publié dans des revues scientifiques, bon, plus régionales. Ça a fait l'objet aussi de posters dans des colloques. Donc, on tient beaucoup aussi à cette communication pour faire savoir, en fait, faire connaître la réalité. Ça a été dit précédemment. On chasse le blaireau. En fait, en réalité, c'est un loisir. Et derrière, pour arriver à faire passer la pilule, on y adore des maladies, des dégâts. Donc, par exemple, le pôle médiation par rapport aux dégâts, on vérifie systématiquement lorsqu'il y a une plainte de dégâts agricoles. À ce jour, il n'y a aucune plainte qui a été reçue par l'administration, parce qu'en fait, on a chaque fois réussi à prouver avec l'OFB, les agents assermentés, qu'il s'agissait de dégâts de sangliers. Donc, il n'y a jamais eu de dégâts sur maïs, par exemple, ça c'est une culture très prisée chez nous, qui pouvait être indemnisé. Alors, c'est quelques mètres carrés, mais ce n'est jamais indemnisé à quelques mètres carrés près. Voilà. Donc, le sanglier étant indemnisé, la technique des estimateurs pro-chasse, c'est de mettre tous au dos de dégâts de blaireau, d'essayer de les mettre sur le dos des dégâts de sanglier, de les mettre sur le dos du blaireau parce qu'ils n'ont pas besoin de payer. Voilà.
D'accord, on a bien compris. Merci infiniment à mes trois invités, Catherine Le Troquet, Fabrice Cabert et Christian Braun, pour toutes ces explications sur le blaireau. Donc, laissons nos blaireaux tranquilles et voilà, on s'en portera beaucoup mieux et eux aussi. Allez, tout de suite, notre séquence, c'est votre histoire.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Après ces mois de confinement, vous avez envie de promenade au vert. Eh bien, ça tombe bien parce que ce matin, nous vous faisons découvrir deux fermes pédagogiques. Bonjour Frédéric Drieux. Frédéric, vous êtes responsable de la ferme pédagogique de la Bergerie nationale de Rambouillet et vous préparez la réouverture de votre site.
Exactement. Bonjour à tous. Tout à fait. Voilà. Après tous ces mois entre nous, nous avons préparé un protocole de réouverture afin de permettre à tous nos franciliens qui ont hâte de retrouver les espaces verts de venir visiter la Bergerie nationale, qui est l'une des plus grandes fermes pédagogiques en Île-de-France. Je dirais
alors
même
justement,
en France.
Expliquez-nous, Frédéric, tout ce que l'on peut y découvrir à partir de mercredi, je crois. C'est la date de la réouverture.
Exactement, voilà. Donc c'est un lieu avant tout historique, 1783, Louis XVI achète ce domaine pour y faire une ferme expérimentale et fait venir d'Espagne un troupeau mérinos, le mouton le sûrement le plus connu au monde pour la qualité et la finesse de sa laine. Et depuis cette époque, ça a toujours été une exploitation agricole qui depuis maintenant à peu près 20 ans travaille sur l'agroécologie. Donc on peut y voir à la fois des vaches laitières élevées en agriculture biologique, y voir toujours le mérinos de Rambouillet élevé pour sa laine, un troupeau de moutons, donc ça représente à peu près 400 moutons et une centaine de vaches, 70 vaches passent à la traite, et à côté de ça, on a les animaux dits pédagogiques qui sont là vraiment que dans un but d'animation, donc on a une chèvrerie, une écurie avec des chevaux de trait, des ânes, et une basse-cour avec tous les animaux à plumes, à poils et les cochons. Donc c'est vraiment
une très jolie ferme pédagogique à découvrir pour les Franciliens, effectivement, puisque bon, cela dit, lors de votre réouverture, il n'y aura plus ce problème des 100 km. Donc, on peut même venir au-delà de la région parisienne pour vous découvrir. On va maintenant partir en Normandie, dans le Calvados. Merci infiniment, Frédéric, et bonne chance pour la réouverture. Bon courage surtout à vous et à vos équipes. On est maintenant avec Hervé Mézérac. Bonjour, Hervé.
Oui, bonjour.
Alors Hervé, vous avez aussi un très bel endroit, une très belle ferme qui est située vraiment dans un coin de Normandie que j'affectionne particulièrement. C'est le Calvados à Ouézy. Racontez-nous ce qu'on fait chez vous, parce que vous êtes déjà ouvert.
Oui, on est déjà ouvert. On a ouvert il y a 15 jours à peu près. Et on est ouvert pour plein de choses, parce qu'il n'y a pas que la ferme pédagogique. Donc il y a la ferme pédagogique, il y a les produits de la ferme qu'on fabrique. Des produits à base de pommes et de poires, donc du cidre, du calvados, du jus de pomme. Et on a aussi des cabanes dans les arbres. Donc tout ça est au même endroit.
Donc beaucoup d'animaux à découvrir, un très joli site. Vous êtes dans le parc d'un château.
Alors oui, on a déménagé en fait. On était dans le parc du château de Canon. Le château de Canon qui est dans le pays d'Auge aussi. Donc côté rive droite du Lézon, donc pays d'Auge. Et on était dans la ferme du château, qui est la ferme que j'exploite depuis 20 ans. Et comme on était un peu étriqué, parce que il commençait à y avoir beaucoup de monde, et pour mieux accueillir le public, surtout pour la ferme pédagogique, on est passé à la rive gauche du Lézon, donc là, cette rivière, qui nous a passé en fait du pays d'Auge à la plaine de Caen, sur en fait quelques mètres, et on est arrivé dans le parc du château de Ouézy. C'est le château qui est juste à côté du château de Canon, qui est collé au château de Canon. Donc les cabanes n'ont pas bougé et les animaux ont déménagé complètement.
Voilà deux jolies sorties nature à faire en famille, le week-end ou même en semaine. Merci infiniment à tous mes invités du jour. Merci à vous, Hervé. On vous souhaite bien sûr un excellent week-end. Profitez de ce beau temps et profitez de la verdure. Allez, à la semaine prochaine pour vos animaux.